Assis devant, épisode 2. Lord Jacques Cartier, une société secrète au service des Canadiens français. Les sociétés secrètes ont toujours occupé une place importante dans la culture populaire. On pense entre autres aux francs-maçons ou aux Illuminati. Mais peu de gens connaissent l'existence d'une société secrète qui tirait les ficelles du Canada français pour une grande partie du 20e siècle. Il s'agit de l'Ordre Jacques Cartier, communément appelé par son nom de code « la Patente ». Chaque épisode d'Assis devant part d'une image captée par notre équipe. Aujourd'hui, notre point de départ est le 135 rue Barrette à Ottawa, plus précisément à Vanier, un quartier historiquement francophone de la capitale nationale du pays. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est cependant pas le quartier, mais bel et bien le bâtiment qui se trouve au 135 rue Barrette. Il s'agit de l'église Saint-Charles de Borromée, une église en briques brunes qui trône sur ce terrain depuis 1908. Aujourd'hui, le bâtiment est loin de sa vocation d'antan. L'église n'accueille plus de fidèles depuis 2010 et elle a été vendue pour la construction d'un complexe de condos de 7 étages. Contrairement à plusieurs églises qui ferment leurs portes avant d'être démolies, une désignation en vertu de la loi ontarienne sur le patrimoine a permis de protéger l'extérieur de l'église Saint-Charles. Elle fut donc intégrée directement au complexe de condos. Un compromis acceptable pour la préservation du patrimoine architectural de Vanier. Pourquoi s'intéresse-t-on à cette église? C'est ici qu'en 1926 voit le jour une société secrète qui influencera grandement le développement du Canada français au 20e siècle. Il s'agit de l'Ordre Jacques Cartier, communément appelé la Patente. Qu'ont en commun les anciens premiers ministres du Québec, Bernard Landry et Jacques Parizeau, l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Louis Robichaud, le romancier, dramaturge, journaliste et homme politique André Laurendeau et Jean Drapeau, ancien maire de Montréal? Et oui, ils ont tous été associés de près ou de loin à l'Ordre de Jacques Cartier. Retraçons l'histoire de cette société secrète. Le tout débute le 22 octobre 1926. Ce soir-là, un groupe de 17 fonctionnaires fédéraux de la capitale canadienne se réunissent dans le sous-sol de l'église Saint-Charles à Vanier, à l'initiative d'Albert Ménard, un ingénieur civil, et du curé de la paroisse Saint-Charles, François-Xavier Barrette, qui, soit dit en passant, est le frère de mon arrière-grand-mère. L'objectif initial de cette rencontre était d'établir des mécanismes d'entraide entre les fonctionnaires francophones pour leur permettre d'accéder plus facilement aux échelons supérieurs de la fonction publique canadienne dominée par des anglophones. Ils ont également voulu trouver des façons de contenir l'influence de sociétés anglophones comme la franc-maçonnerie, les chevaliers de Colomb et l'Ordre d'Orange, qui posaient un risque d'assimilation pour les Canadiens français, en plus de présenter des obstacles politiques et idéologiques à l'épanouissement du peuple canadien français. À titre d'exemple, l'Ordre d'Orange du Canada, une organisation protestante constituée principalement d'Irlandais, avait milité quelques années plus tôt en faveur de l'adoption du règlement 17, un règlement qui interdisait l'enseignement en français dans les écoles ontariennes de 1912 à 1927. Cette première rencontre se solda par la création d'une des sociétés secrètes les plus marquantes de l'histoire du Canada, soit l'Ordre de Jacques Cartier. Lors des premières rencontres, on nomme Albert Ménard à titre de grand commandeur et François-Xavier Barrette sera le premier chapelain de l'Ordre de Jacques Cartier. Dans un premier temps, l'Ordre demeure une organisation locale qui œuvre principalement à Ottawa. Les rencontres se succèdent à un rythme constant et un mois après sa création, les membres élaborent une constitution. Comme toute bonne société secrète, l'Ordre de Jacques Cartier développe un rituel d'initiation semblable à celui des francs-maçons. Le rituel évoquait la traversée de Jacques Cartier. Plusieurs épreuves devaient être réalisées par les futurs membres. Les initiés avaient les yeux bandés et ils devaient marcher sur une mince planche où ils recevaient de l'eau au visage. On leur faisait aussi boire un liquide amer et on allait même jusqu'à leur demander de signer un document avec leur sang. Une poignée de main secrète est également instaurée pour permettre aux membres de se reconnaître. De plus, les membres utilisent le nom de code, la patente, pour identifier la société secrète. Voici justement l'historien Jacques Lacourcière, membre de l'Ordre de 1951 à 1965, nous expliquer la pertinence de ce nom de code lors de son passage à l'émission « Le signe secret » présenté en 2012 sur la chaîne Historia.
Quand on rencontrait quelqu'un qui était membre, « Ah, oh, t'es-tu toujours dans la patente, toi? » On ne disait jamais « Es-tu toujours membre de l'Ordre de Jacques Cartier? » Parce qu'au cas où il y a eu des oreilles indiscrètes. Mais la patente, c'est un mot passe-partout.
Cependant, ne devient pas membre qui veut. Les membres sont recrutés au compte-gouttes et on cible principalement des gens qui ont déjà une influence dans leur communauté. On cherche des candidats qui sont animés de patriotisme sincère et qui sont prêts à respecter l'essence même de l'Ordre, soit une foi inébranlable dans les objectifs de l'organisation, de la discipline dans l'obéissance au mot d'ordre et de la discrétion. De plus, les nouveaux membres doivent être catholiques, francophones et de sexe masculin. Le dernier critère a été instauré puisqu'on jugeait que les femmes auraient plus de difficultés à garder le caractère secret de la patente. Ce n'est pas moi qui le dis. Et il faut être conscient qu'à l'époque, peu de femmes avaient des positions d'autorité dans la société. Dès 1927, la patente est officiellement incorporée. Elle peut donc évoluer en toute légalité, le tout en maintenant le caractère secret de l'organisme. Sur papier, l'Ordre de Jacques Cartier prendra le nom de l'Entraide Inc. et plus tard de l'Association culturelle canadienne. Dès lors, la croissance de l'Ordre de Jacques Cartier est fulgurante. Rapidement, elle commence à avoir des membres à l'extérieur d'Ottawa. Ces nouveaux membres se regroupent dans ce qu'on appelle une commanderie, c'est-à-dire une cellule locale de l'organisation. En 1930, l'Ordre de Jacques Cartier compte déjà 16 commanderies, soit 9 en Ontario, 2 dans l'ouest du pays et 5 au Québec. Cette croissance se poursuit dans les années 30 où on y dénombre 59 commanderies, dont 13 en Ontario et 39 au Québec, ce qui fait en sorte que l'ensemble des régions où se concentrent les Canadiens français sont maintenant représentés. En 1937, l'Ordre compte maintenant 98 commanderies à l'échelle pan-canadienne. On continue de solidifier la structure. On crée les conseils régionaux et le comité permanent, une sorte de conseil exécutif. Plus tard, on crée les conseils provinciaux pour chacune des régions où s'est implanté l'Ordre de Jacques Cartier, soit un conseil pour le Québec, un pour l'Ontario, un pour l'Acadie et un pour l'ouest du pays. La patente se dote même d'une douzaine d'employés pour gérer les affaires courantes de la société. L'autorité suprême revient cependant à la chancellerie, qui est toujours basée à Ottawa, et c'est à partir de la capitale nationale que l'Ordre de Jacques Cartier déploie ses tentacules de contrôle à l'échelle du pays. Avec une structure aussi bien établie, l'Ordre de Jacques Cartier réussit à infiltrer, influencer, voire même contrôler une grande partie des organisations sociales, politiques et économiques. Au final, pour maintenir le secret, ce n'est pas l'Ordre de Jacques Cartier lui-même qui agit sur la société, mais bien les organismes infiltrés par la patente. L'Ordre appellera cette stratégie la technique du noyautage et de l'extériorisation. À titre d'exemple, en 1947, Gérald Filion, directeur du journal Le Devoir et non le vulgarisateur économique de Radio-Canada, ainsi que toute l'équipe éditoriale du journal étaient membres de l'Ordre. Le Devoir pouvait donc faire avancer certaines causes par l'intermédiaire de sa ligne éditoriale. De plus, pour arriver à leur fin, l'Ordre de Jacques Cartier partage leur message clé dans un document qu'on appelle « lettre circulaire ». Ce document est envoyé à des intervalles réguliers à chacune des commanderies. C'est dans ces lettres que la chancellerie donne des consignes claires aux membres. Cela permet de faire avancer des causes simultanément à l'échelle du pays. L'Ordre de Jacques Cartier publie également un bulletin interne mensuel nommé « L'Émirion ». Dans ce bulletin, on y partage des chroniques régionales, des publicités d'entreprise, des nouveaux règlements et des motions adoptées. C'est l'occasion pour les membres d'être à jour dans ce qui se fait à l'échelle de la société secrète. Il reste aujourd'hui très peu de copies physiques de ces publications, puisque le mot d'ordre était de les brûler une fois lues. Là, c'est sûrement le moment où vous vous dites « C'est bien beau toute cette structure, mais qu'est-ce que l'Ordre de Jacques Cartier a fait de concret pour faire avancer la cause des francophones au pays? » Les historiens ne s'entendent pas sur la réelle portée de l'Ordre de Jacques Cartier. Le caractère secret de l'organisation fait en sorte qu'il est difficile de tracer un bilan précis de leurs actions. Il n'en demeure pas moins que les membres de la patente ont influencé plusieurs changements dans la société du 20e siècle, qu'ils aient été directement demandés par la chancellerie ou non. Au début de l'ordre de Jacques Cartier, plusieurs campagnes d'envoi massif de lettres par les membres ont été organisées. Écoutons justement Jean-Louis Allard, membre de l'ordre de 1950 à 1965, qui nous expliquait cette méthode à l'émission Le Signe Secret, diffusée sur les ondes d'Historia en 2012.
Disons que dans la commanderie de la paroisse Sainte-Famille, nous étions, imaginons, 20 membres. Eh bien, à ce moment-là, les 20 membres pouvaient directement influencer 100, 200, 300 personnes. De telle sorte que tout de suite, quand un mot d'ordre venait, où on demandait d'envoyer une lettre pour demander telle et telle chose au gouvernement, c'était tout de suite des milliers qui pouvaient sortir d'une commanderie. Et alors, imaginez le nombre de commanderies qu'il y avait à travers le Canada, ça pouvait avoir une grande influence.
L'ordre a utilisé cette méthode pour faire avancer la cause du bilinguisme sur la monnaie, les timbres et les formulaires de l'assurance chômage. L'ordre a aussi fait pression pour obtenir des services en français dans des compagnies d'utilité publique comme Bell Canada ou des commerces principalement anglophones comme Eaton. La patente a également milité pour obtenir des émissions de radio francophones diffusées d'un océan à l'autre sur les ondes de Radio-Canada. Certains vont même jusqu'à dire que la Société Radio-Canada est un héritage de l'ordre de Jacques Cartier. La patente utilisait également son pouvoir pour influencer les nominations ecclésiastiques francophones dans les écoles et les paroisses à travers le pays. L'ordre de Jacques Cartier fait aussi la promotion de l'achat local en créant la Ligue d'achat chez nous. Mais évidemment, on demandait d'acheter chez des commerçants francophones et non dans les commerces dirigés par les anglophones. Cette initiative permet de ce fait à plusieurs entreprises de survivre à la crise économique des années 30. Comme quoi, l'achat local est un enjeu de longue date. Les membres de l'Ordre de Jacques Cartier travaillent également à la francisation de la toponymie du Québec. Par exemple, Three River devient Trois-Rivières, même que la Commission de toponymie du Québec n'aurait jamais vu le jour sans l'apport des pressions de l'Ordre. L'Ordre aurait aussi milité pour éviter que le pont Jacques-Cartier ne soit baptisé Harbour Bridge. Sur le plan emblématique, l'Ordre de Jacques-Cartier aurait joué un rôle important dans la création du drapeau du Canada et du Québec, en plus de faire pression pour adopter un nouvel hymne national pour remplacer l'hymne britannique God Save the Queen. En 1954, la patente contribue directement à l'élection de Jean Drapeau à la mairie de Montréal, lui qui était également membre de l'Ordre. Pour ce faire, un mot d'ordre avait été envoyé à toutes les commanderies de la ville pour tout faire en leurs moyens pour que Drapeau gagne ses élections. On dit aussi que la patente aurait manigancé pour que l'Expo 67 se déroule à Montréal et non à Toronto. Du côté de l'Acadie, la société secrète aurait contribué à l'obtention d'un système scolaire francophone et à l'épanouissement du mouvement coopératif dans la province. En 1943, l'Ordre de Jacques Cartier fonde la Société Richelieu, un club social encore actif dans une dizaine de pays francophones. Ce sont là des preuves indélébiles que l'Ordre de Jacques Cartier a eu une influence importante au cours du 20e siècle, ce qui a sans contredit permis de faire avancer la cause des Canadiens français. Et ça, c'est seulement ce que l'on sait. Le début des années 60 marque un tournant pour l'Ordre de Jacques Cartier lorsque des dissensions surviennent entre les membres du Québec et ceux du reste du pays. Plusieurs commanderies québécoises souhaitaient davantage de pouvoir. Cette cassure survient au même moment où plusieurs mouvements nationalistes se développent au Québec, tels que le Ralliement national, le Rassemblement pour l'indépendance nationale et le Front de libération du Québec, pour ne nommer que ceux-là. En 1963, un ancien membre va même jusqu'à révéler les secrets de l'Ordre au magazine Maclean's, tout en y affirmant que la patente était un frein à la démocratie du Québec, ce qui entraîna encore plus de défections. En 1964, un manifeste est adopté par le Congrès du Conseil provincial du Québec. Dans ce manifeste, on y prend officiellement position en faveur d'un État national francophone au Québec. Les francophones hors Québec ne se rallient cependant pas à cette proposition, ce qui occasionnera du même coup la rupture du concept de Canadien-Français. La montée du nationalisme québécois aura finalement raison de la patente. En février 1965, après plusieurs mois de négociations, l'Ordre de Jacques Cartier est officiellement dissous. « Consternés par cette dissolution, les membres ontariens de l'Ordre de Jacques Cartier ne baissent pas les bras et créent l'Ordre des Franco-Ontariens, reprenant la même structure et les mêmes motivations que la patente. Cette nouvelle société secrète a été active quelques années avant de disparaître à son tour. Bien qu'elle n'ait jamais été dissoute officiellement, elle ne laisse plus de traces depuis 1971. Au final, l'Ordre de Jacques Cartier aura été actif près de 40 ans. Au total, on estime que l'Ordre a vu passer environ 70 000 membres. Même qu'à cette dissolution, l'organisation comptait toujours 12 000 membres. Qui sait, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre grand-oncle en a peut-être déjà fait partie. Le travail de l'Ordre de Jacques Cartier a possiblement permis d'éviter l'assimilation des francophones au pays, surtout à une époque où les anglophones dominaient les autres sphères de la société. L'église Saint-Charles, toujours aussi solide, près de 100 ans après la création de l'Ordre de Jacques Cartier, nous rappelle que la lutte n'est pas terminée et que le combat pour la protection de la langue française se poursuit encore aujourd'hui. Pour voir les photos en lien avec cet épisode, n'hésitez pas à suivre la page Facebook et la page Instagram d'Assis Devant. Une série de photos sera publiée pour chacun des épisodes. Merci à Julien Lavoie, photographe, pour cet épisode.
Assis devant.
À la recherche, à la réalisation et à l'animation, Éric Barret. La musique est de Jean-Philippe Levac. Nous avons plusieurs histoires fascinantes à vous raconter cette saison, alors restez à l'affût et n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié.